Bonsoir à tous. Nouvelle tension autour de la mémoire. Reportage à Lille dans un instant où manifestants anti-racisme et identitaires s'opposent autour d'une statue de Faidherbe, un général du 19e mais aussi administrateur colonial. On ne les voyait plus pendant la crise sanitaire. Les migrants sont de retour dans la rue. Les associations s'inquiètent et en appellent au pouvoir public. La convention climat, dernier jour de vote avant le rapport final. Le maximum a été fait, estime le climatologue Jean Jouzel, satisfait, vous l'entendrez. En Allemagne, des soldats envoyés en renfort pour dépister les milliers de salariés d'un abattoir, nouveau foyer de contamination dans le pays. Et puis le monde du sport et l'Italie au chevet d'Alex Zanardi, champion de handisport, victime d'un grave accident hier.
France Inter.
Il n'y a pas un jour ces dernières semaines sans que l'on entende parler de déboulonner des statues. Encore hier à Washington, aux États-Unis, la dernière statue d'un général confédéré a été jetée à terre par des manifestants anti-racisme. À Lille, des tensions ont éclaté aujourd'hui autour de la représentation du général Faidherbe, sénateur socialiste du Nord, héros de la guerre franco-prussienne de 1870, mais qui a participé à la colonisation et aux violences au Sénégal notamment. Plus de 200 personnes ont manifesté devant sa statue aujourd'hui pour réclamer son retrait ou au moins une mise en contexte. Manifestation perturbée, Louis Stoman, par une quinzaine de militants identitaires.
D'un côté de la rue, il y a les militants opposés à la statue de Faidherbe. La réponse jaillit du pied du monument équestre, une vingtaine d'individus d'extrême droite. La tension monte. Puis elle éclate quand des manifestants antifascistes s'avancent au milieu de la route où les identitaires les rejoignent. La police les sépare alors précipitamment et des organisateurs s'interposent pour essayer de garder le calme.
Bah oui, mais en même temps, c'est les antifas qui veulent aller dans les flics alors que nous, on veut juste parler et montrer que la statue ne veut pas être déboulonnée ou qu'ils arrêtent de foutre la merde. Je me mets entre les flics et un mec blanc qui veut taper un flic, t'imagines ?
Steve Métis, il fait partie du comité des coloniales déterminés.
Il y a d'autres méthodes pour faire entendre sa voix et surtout, c'est un espèce de gâchis. Parce que la parole des uns n'est pas écoutée par rapport aux autres. Je pense qu'il y a un enjeu aussi à peut-être un peu mieux laisser la place aux personnes qui sont stigmatisées, qui doivent mettre la France face à ses impensés, face au fait qu'on est dans les angles morts. Je reste optimiste et attentif.
Le calme revenu, les manifestants demandent donc un retrait de la statue de l'espace public, comme l'a été celle de Napoléon. Auparavant, au milieu de la vieille bourse à Lille, elle est aujourd'hui exposée dans le musée des Beaux-Arts.
Un reportage France Bleu Nord signé Louis Stoman. Une série de manifestations aussi aujourd'hui en France pour la régularisation des sans-papiers. Des milliers de personnes à Paris, 300 à Grenoble, 250 à Rennes et à Montpellier. Mobilisation à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. De son côté, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies demande à la France de pérenniser les 30 000 places d'hébergement qui ont été mises en place pendant le confinement et les dédier aux réfugiés et aux demandeurs d'asile. Depuis quelques jours, effectivement, les migrants commencent à arriver de nouveau. C'est ce que constate sur le terrain, Teresa Maffeis de l'Association pour la démocratie à Nice et dans les Alpes-Maritimes.
Les gens commencent à arriver de nouveau. Donc on va revoir encore toute cette population qui va être sans doute à la rue et qui va attendre encore des mois avant d'avoir la régularisation ou pas, malheureusement. Il y a des familles qui arrivent, qui ont un frère, une famille ou un cousin qui sont dans d'autres villes et qui sont installés et qui ne demandent qu'une chose, c'est d'aller les retrouver. Donc il y a un principe de regroupement familial qui n'est même pas appliqué. Moi je travaille aussi avec beaucoup de militants italiens. Ce qui se passe à Trieste, c'est innommable parce que les gens qui arrivent par la Slovaquie, la Croatie arrivent dans des états mais terribles, je veux dire, ils sont frappés, etc. Et ça, dans l'indifférence totale de l'Europe et de la France. Il faudra qu'un jour, quand même, on se dise répartition. Déjà, acceptons le principe de regroupement familial qui existe et puis répartissons les pays et obligeons les pays de l'Europe qui n'acceptent pas, par des sanctions, à accepter des migrants et à les traiter correctement, pas comme dans certains pays.
Teresa Maffeis, militante notamment auprès des sans-papiers avec Soisigbourg. Une foule massive et compacte cet après-midi au Havre. 2700 dockers de la ville sont venus rendre hommage à l'un des leurs, un militant CGT assassiné le 12 juin dernier. On y reviendra dans le journal de 19h. Après plusieurs jours de violence cette semaine à Dijon, le parquet requiert la mise en examen des quatre hommes placés en garde à vue. Le procureur se dit choqué et préoccupé face à des affrontements entre communautés sur fond de discrimination, voire de racisme, dit-il. Une centaine de personnes a manifesté aujourd'hui pour réclamer la démission du préfet, taxé d'inaction et de laxisme. Ils vont rendre leur copie demain à l'exécutif. Les 150 citoyens de la Convention climat votent encore aujourd'hui sur leur proposition pour lutter contre le réchauffement climatique. Pour leur seule une mesure, l'une des plus discutées, a été retoquée, celle de la semaine de travail à 28 heures. Et pour le climatologue et prix Nobel Jean Jouzel, membre du comité de gouvernance de cette convention, la mission est remplie. Les mesures permettront bien de réduire les gaz à effet de serre de 25% d'ici 2030 par rapport à aujourd'hui.
Le maximum a été fait. Pratiquement toutes les mesures importantes, je dirais, susceptibles d'avoir un impact, ont été ou sont en cours d'être adoptées par les citoyens. On verra bien quel est leur sort par la suite. Du point de vue potentiel de réduction de gaz à effet de serre, disons, se nourrir, se loger, se déplacer, en France, ça représente à peu près 60% des émissions. Donc on voit bien que toutes les actions liées à, en particulier à se déplacer, disons, à la mobilité et au logement, à l'urbanisme, sont extrêmement importantes. Il faut accélérer vers les mobilités douces, les transports collectif. On a aussi beaucoup parlé de la place de l'avion, du transport aérien. Honnêtement, toutes les mesures qui sont côtées endossées, et très largement endossées par les citoyens, sont de nature à nous mettre sur une bonne trajectoire. Je suis effectivement très heureux de voir les citoyens au rendez-vous à la hauteur de l'ambition que nous, climatologues, notre communauté, nous, d'une certaine façon, nous souhaitons tout simplement pour que les jeunes d'aujourd'hui, finalement, n'aient pas à faire face dans la deuxième partie de ce siècle à un climat auquel ils ne pourraient pas s'adapter. C'est maintenant que ça se décide.
Le climatologue Jean Jouzel au micro de Célia Quiret pour France Inter. Certaines de ses propositions pourraient déboucher sur un référendum, voire une révision de la Constitution. Emmanuel Macron tranchera ses prochains jours. Il reçoit les 150 le 29 juin. Les négociations avancent sur le Ségur de la santé. Selon le syndicat UNSA Santé, un projet d'accord se dessine sur une hausse générale des salaires pour les personnels hospitaliers, à l'exception des médecins, en 2021.
À l'étranger, Alexandra Dubouchon, dernière passe d'armes entre Paris et Ankara sur le dossier libyen.
La Turquie accuse la France de mettre en danger la sécurité de l'OTAN en soutenant le maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, contre les forces gouvernementales. Déclaration du porte-parole de la présidence turque aujourd'hui. Le coronavirus et ses paliers symboliques et inquiétants franchis en Amérique du Sud. 20 000 décès au Mexique, où le confinement est reporté dans la capitale. Presque 50 000 décès au Brésil, où le cap du million de cas de contamination est désormais dépassé. En Allemagne, l'armée a été envoyée en renfort dans l'ouest du pays après la découverte d'un important foyer de contamination. Un millier de salariés a été testé positif pour l'instant dans le plus grand abattoir d'Europe et seule la moitié des 6000 salariés a été testée. Reportage de notre envoyé spécial Ludovic Piétenu sur place à Gütersloh.
Il faut faire vite. L'armée venue en renfort hier a même augmenté aujourd'hui de 24 à 65 le nombre de soldats mobilisés pour mener cette campagne massive de tests aux côtés de la Croix-Rouge. Sven-Georg Adenauer, le responsable politique du district, annonce le nouveau bilan.
1029 positifs.
Mais il relativise, il y avait précédemment 830 cas positifs sur un millier d'ouvriers testés, plus des trois quarts. Désormais, c'est seulement un tiers. Ce qui signifie que la proportion de personnes contaminées a clairement diminué, dit-il. Ce n'est plus aussi fort, et pour moi, c'est important, car cela veut dire que nous n'avons pas un départ significatif d'une infection de coronavirus dans l'ensemble de la population. Il reste au moins 3000 tests à effectuer ou en attente de résultats. Dans les villes et villages alentours, on voit circuler et s'arrêter des colonnes de véhicules de l'armée et de la Croix-Rouge. Ils visitent les appartements des ouvriers, souvent des sous-traitants précaires est-européens qui vivent parfois les uns sur les autres. Ils cherchent à connaître les lieux où ils se sont rendus, les personnes qu'ils ont rencontrées afin de circonscrire l'épidémie. À Gütersloh, dans l'ouest de l'Allemagne, Ludovic Piétenu, France Inter.
Malgré les appels des pays occidentaux à préserver l'autonomie de Hong Kong, Pékin a présenté aujourd'hui son projet de loi controversé. Il primera sur les lois de l'ancienne colonie britannique, rétrocédée à la Chine en 1997. Il prévoit aussi un organe de sécurité nationale chargé de collecter des renseignements et de traiter les infractions portant atteinte à la sécurité nationale.
L'émotion en Italie après l'accident d'une figure du handisport.
C'est comme si le sort s'acharnait. Alex Zanardi, un ancien pilote de Formule 1 amputé des deux jambes après un accident en 2001, a été percuté par un camion hier lors d'une course de vélo à main en Toscane. Son état est stable, mais grave. Les précisions de notre correspondant en Italie, Antonino Gallofaro.
L'Italie retient son souffle. Avec cette une, il Corriere della Sera s'est fait l'écho de l'émotion à travers la péninsule provoquée par l'accident d'Alex Zanardi, champion en fin de vie. Le journal sportif La Gazzetta dello Sport était quant à lui très pessimiste ce matin, tout comme les médecins à Sienne où le champion paralympique est hospitalisé. Le cycliste souffre d'un grave trauma crânien. Si ses conditions s'améliorent, il devra subir une reconstruction du crâne, selon son neurochirurgien, qui ajoute que ce sera un long parcours dans le meilleur des cas, alors qu'une détérioration de ses conditions peut arriver d'un moment à l'autre, toujours selon son médecin. 19 ans après l'incident lui ayant coûté les deux jambes lors d'une course, Alex Zanardi a été victime hier d'un autre drame lors d'un entraînement. Il a percuté frontalement un camion après un virage. Une enquête a été ouverte.
Et Alex Zanardi a reçu plusieurs messages d'encouragement d'actuels et d'anciens pilotes de Formule 1. Combat comme tu sais si bien le faire, tu es un grand, a tweeté tout à l'heure Charles Leclerc. Allez champion, écrit de son côté Fernando Alonso. L'Italie qui va quand même célébrer aujourd'hui la reprise de son championnat de football à l'arrêt depuis mars avec le coronavirus. Après la Bundesliga allemande, la Liga espagnole, la première ligue anglaise, 4 matchs ce week-end en Serie A et d'abord Torino-Parme à 19h30.
C'était le journal d'Alexandra Dubouchereau. Tout de suite, les couleurs du ciel.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Et voici Jean-Michel Golinski de Météo France.
Demain, on aura le choix entre le soleil et les températures en hausse sur les régions de l'Est et du Sud et un quart nord-ouest où les valeurs vont légèrement baisser en raison du ciel maussade entre la Bretagne, la Belgique, le bassin parisien, le centre et le Poitou-Charentes. Sur ces régions, les maximales ne dépasseront pas 21 degrés en moyenne. Sur les régions de l'Est et du Sud, le temps sera beaucoup plus dégagé, sauf l'après-midi en montagne où les cumulus pourront bourgeonner jusqu'à l'averse. Il fera 28 degrés au sud de la Garonne, entre 30 et 33 autour de la Méditerranée, et 24 à 27 de la Champagne à Rhône-Alpes.